Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous savoir nombreux scotchés sur la 105.5 MHz Radio Serré. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire « Usagers de la route ». Dans l'édition de ce jour, nous allons parler du conducteur d'un véhicule. Quelles sont les conditions pour conduire? Quelles sont les qualités d'un bon conducteur? Quels sont les comportements et attitudes incompatibles avec la conduite? Telles sont entre autres les préoccupations auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses au cours de cette émission. Comme personne ressource pour aborder ce sujet, M. Emmanuel Sawalda, expert en prévention et sécurité routière et par ailleurs promoteur de l'auto-école Septentrion de Maroua, est notre invité du jour. L'équipe à votre service est composée comme d'habitude de Nicole Massaï à la réalisation, Maxino à la technique, David Bayang à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Merci de nous recevoir dans vos délicates oreilles. Amis auditeurs, vous êtes bien sur la 105.5 MHz Radio Serré, à l'écoute de Usagers de la route, votre émission de sensibilisation sur la circulation routière. Vous êtes sans l'ignorer, notre objectif est de vous édifier sur les règles de la circulation routière afin de limiter au maximum les actes d'incivisme et les risques d'accidents sur nos routes. Pour cela, nous avons choisi de vous édifier aujourd'hui sur les qualités d'un bon conducteur ainsi que sur les attitudes et habitudes incompatibles avec la conduite. Selon l'article 2 alinéa 25 du décret numéro 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière au Cameroun, le conducteur désigne toute personne qui assure sur une route la direction d'un véhicule ou de bestiaux isolés ou en troupeau. Cette définition est complétée par celle donnée par le Code de la route CEMAC qui prend aussi en compte les conducteurs de cycle, c'est-à-dire tout véhicule qui a deux roues ou moins, propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles. On peut donc conclure sans risque de se tromper que parler de conducteur revient à parler de tous les usagers de la route à l'exception des piétons. L'activité du conducteur est encadrée par plusieurs règles pour faciliter le partage de la route avec les autres usagers, mais aussi pour limiter les risques d'accident de la circulation. Toutefois, vous conviendrez avec moi que les attitudes observées chez les conducteurs ici chez nous laissent à penser qu'on serait dans une anarchie et un laisser-aller qui ne sont pas sans conséquences. Quelles sont les règles que tout conducteur devrait observer? Pourquoi les conducteurs de notre région et de la ville de Maroua en particulier n'obéissent pas systématiquement à ces règles? Nous allons en parler au long de cette émission. Mais avant, je vous invite à écouter ce micro-trottoir qui va vous permettre de vous faire une idée des connaissances et des habitudes des conducteurs de la ville de Maroua sur ce sujet.
Un conducteur, c'est lui qui accompagne quand même l'un à l'autre à sa destination. C'est ça que tu conduis. On peut conduire la voiture pour les transports en commun, pour les transporteurs, des porteurs de bagages. Il y a des voitures personnelles. Bon, un conducteur, un chauffeur, on confond les mêmes choses. Quand tu chauffes le moteur le matin, et c'est ça qu'on dit qu'un conducteur, parce qu'un conducteur, il peut ne pas chauffer le moteur. Il y a quand même le conveyeur qui peut chauffer la voiture et ne pas conduire. Mais un conducteur, c'est celui qui est au volant. Un bon conducteur, c'est celui qui maîtrise bien le volant et qui a fait la corde de route. Il prête bien attention sur la circulation, il connaît l'axe là. Il y a quand même les priorités en route. Il peut arriver en latéral de pont comme ça, il ne peut pas doubler. Et il maîtrise bien le volant, c'est ça le conducteur. Bon, quand on conduit, il ne faut pas vraiment trop boire, c'est saoulé. Quand tu prends le boisson, il faut éviter de conduire. Et quand tu as le sommeil, il faut t'arrêter le sommeil, que c'est d'une manière que tu peux bien être conscient. Mais quand tu es inconscient, tu ne peux pas conduire. Non, jamais. Bon, en tant que l'homme musulman, c'est boire, faire tout ça la même. Ma religion interdit strictement. Combien de fois quand je conduis, tout ce qui dérange la conscience de quelqu'un, je ne prends pas. Et je conduis au moment quand je suis bien.
Monsieur Mamadou Bilali, bon, je conduis la moto depuis 5-6 ans. Un conducteur, c'est d'abord quelqu'un qui veut conduire et qui maîtrise d'abord la conduite et qui s'intéresse. La différence entre un conducteur et un chauffeur, bon, quand on dit un chauffeur ce n'est pas quelqu'un qui conduit sa voiture ou même sa moto. Le chauffeur se trouve la plupart dans les agences de voyage, tandis que quand toi tu es un conducteur, tu utilises ton engin personnel. Les conditions pour être conducteur, premièrement, d'après ce que je connais, il faut avoir les pièces personnelles qui sont la carte nationale d'identité, premièrement, suivie du permis de conduire. Les qualités d'un bon conducteur, bon, pour moi je peux dire normalement un conducteur qui a par exemple le permis de la catégorie A, qui n'a pas le droit de conduire certaines. Bon, il y a d'autres qui forcent quand même, ils ne sont pas autorisés. Bon, de toute façon, celui qui a par exemple le permis A, tu ne peux pas le comparer quand même à celui qui a le permis B, C, ainsi de suite. Donc, sinon, la conduite, je peux dire, c'est presque la même. Normalement, pour conduire de nos jours, que ce soit en ville ou bien sur les axes, ou même dans n'importe où que ce soit, il faut quand même être quelqu'un qui maîtrise. Même si tu ne pars pas dans les auto-écoles, il faut quand même savoir, il faut te dire toi-même même que tu conduis avant que les gens qualifient que tu conduis aussi. Beaucoup de choses à éviter, même par exemple, comme prendre le téléphone ou appeler quelqu'un, même recevoir en même temps, sont strictement interdits dans la conduite. Deuxième moment, il faut te concentrer quand tu es dans la conduite. Il faut éviter de regarder de gauche à droite. Il faut respecter aussi, par exemple, les feux de la route. Bon, comme ici à Maroua, pour le moment, je ne vois pas, on n'a pas ça. Donc, de toutes les façons, il y a quand même des conditions à respecter dans la conduite pour éviter les accidents, les embouteillages et tout ça. Et même l'alcool, par exemple, c'est strictement interdit. Si tu es quand même normalement sous, tu ne dois pas conduire puisque tu n'étais plus encore en toi. Non, c'est strictement interdit.
Oui, moi c'est Abdou Hamidou, je suis de Maroua. Je conduis la moto depuis 5 ans. Un conducteur, c'est quelqu'un qui conduit un engin, une voiture, une moto ou un vélo. Il faut savoir d'abord conduire avant de conduire. Et il y a aussi le permis de conduire. Il faut aussi avoir l'âge pour conduire, minimum 15 ans. Un conducteur, c'est celui qui conduit la moto. Et un chauffeur, c'est celui qui conduit la voiture. Un conducteur, bon, c'est celui qui est prudent dans sa conduite. Bon, éviter de consommer les boissons alcoolisées, les comprimés comme la drogue, de fumer aussi comme les bangas pour éviter les accidents. Fumer, boire les boissons alcoolisées, ça cause l'accident. On ne peut pas conduire quand on est fatigué normalement. On ne peut pas conduire parce qu'il peut être qu'en conduisant, la personne peut tomber dans le sommeil et il vire en cours de route.
Un conducteur, c'est celui-là qui conduit, qui sait conduire. Les conditions pour devenir les conducteurs, premièrement, on doit s'adhérer à l'auto-école pour apprendre les différentes parties de la route et les différents panneaux. Il faut être dans une bonne conscience, il faut voir, il faut être aussi un homme qui n'a pas peur de conduire. Un conducteur et un chauffeur, il n'y a pas la différence, c'est la même chose. Les qualités d'un bon conducteur, un conducteur doit avoir d'abord son permis de conduire, doit savoir la vitesse dont il roule, doit savoir aussi les différents carrefours. Oui, bel et bien, il y a des comportements à éviter. Par exemple, si on trouve les enfants divagués près de la route, on doit limiter. On doit aller doucement, soit klaxonner pour faire savoir aux enfants qu'il y a un engin qui passe. L'alcool et la drogue ne sont pas bons pour la conduite. Parce que si on consomme l'alcool ou la drogue, on ne doit pas rester dans sa bonne conscience. Moi, je conduis, mais je ne bois pas l'alcool et ni la drogue. On ne peut pas conduire étant fatigué. Parce qu'on peut somnoler, on peut même dormir sur le volant.
Auditeurs et auditrices usagers de la route, vous êtes toujours sur la 105.5 MHz Radio Serré, à l'écoute de votre émission hebdomadaire de sensibilisation routière. Aujourd'hui, nous parlons du conducteur. Et pour approfondir le sujet, nous allons à présent recevoir, comme annoncé en titre, M. Emmanuel Sawalda, expert en prévention et sécurité routière, par ailleurs promoteur de l'auto-école Le Septentrion. Monsieur Emmanuel Sawalda, merci d'être à nouveau avec nous ce jour pour édifier nos auditeurs sur les règles de la circulation routière.
Je vous remercie aussi de m'avoir invité sur votre plateau. Et je suis vraiment ravi et c'est moi qui vous remercie, vraiment.
Alors aujourd'hui, nous allons parler du conducteur. C'est quoi un conducteur ?
Le conducteur, c'est celui-là qui est au poste d'un commande, d'un véhicule et qui a un permis de conduire. C'est lui le conducteur.
Quand vous dites quelqu'un qui est au poste de commande d'un véhicule, est-ce que c'est uniquement des voitures ou c'est tout type d'engin motorisé ?
Tout engin motorisé, ça c'est un conducteur. Et c'est celui-là qui est au poste d'un commande d'un véhicule, d'un engin motorisé. C'est-à-dire voiture, on commence d'abord le cyclomoteur, cyclomotoriste, et motocyclette, voiture et les engins. C'est lui qu'on appelle conducteur. Voilà.
Alors, est-ce que la conduite est ouverte à tout le monde ? Est-ce qu'il y a des conditions préalables à remplir pour pouvoir justement conduire ?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, mais il y a des préalables, donc des conditions. Par exemple, vous devez d'abord aller dans une auto-école, qu'on vous apprenne vraiment le code de la route, où on vous apprenne aussi comment on conduit. Et ça serait sanctionné par un examen que vous devez avoir aussi le permis de conduire. Voilà, c'est ça.
Je vais reposer la question en la reformulant. Est-ce que tout le monde peut aller à l'auto-école, obtenir un permis et conduire ?
Bon, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde parce que d'abord, le permis commence par le permis A1, qui est le permis des cyclomotoristes, le permis A1. Et pour avoir ce permis A1, il faut avoir 16 ans. Et le permis A, 16 ans toujours. Donc ça veut dire qu'il y a l'âge, c'est pas pour tout le monde, il y a l'âge requis pour qu'on vous autorise à conduire. Donc pour faire le permis de conduire. Voilà, c'est minimum 16 ans.
Restons toujours sur la même question. Plus on avance, plus on essaie un peu d'élaguer pour faciliter ou alors pour bien comprendre ce que c'est qu'un conducteur. Est-ce qu'il n'y a pas de conditions de santé, de conditions d'aptitude physique à respecter pour être conducteur ?
Oui, quand tu te présentes d'abord pour conduire, il faut que tu sois d'abord apte, c'est-à-dire physiquement apte, que tu n'as pas des handicaps, surtout l'handicap visuel, surtout, et l'audition. Et il faut aussi que tu entendes. Voilà. Donc, voilà d'abord les deux choses qu'on exige d'un conducteur avant qu'on ne t'accepte pour te faire le permis de conduire. C'est vrai qu'il y a certaines catégories d'usagers qu'on doit aussi connaître, que tout le monde doit aussi connaître ses usagers, les handicapés. Les handicapés aussi sont autorisés à conduire parce que les handicapés, surtout moteurs, parce que maintenant il y a des véhicules adaptés à tout genre d'handicap que vous aviez, en dehors de la vision et l'audition. Voilà. Donc il y a un permis pour les handicapés aussi. Il ne faut pas que vous les voyez en circulation, du coup vous dites que mais celui-ci là, il n'a pas les pieds et il conduit, ou bien celui-ci là, ses mains sont coupées. Mais eh bien, il conduit. Il y a des véhicules adaptés à tout genre d'handicap en dehors de la vision, comme je vous disais tantôt, et l'audition.
C'est suffisamment clair, justement. Quelle est la différence entre un conducteur et un chauffeur ? Est-ce qu'il y a une différence, si oui, laquelle ?
Oui, bien sûr, il y a une différence entre un conducteur et un chauffeur. D'abord, un conducteur, c'est celui qui conduit son véhicule ou bien le véhicule d'autrui sans être rémunéré. C'est-à-dire que, oui, tu es conducteur, tu as ton permis, tu peux prendre par exemple un véhicule d'un ami, d'un cousin, de la famille et que tu fais les courses de la famille ou bien je ne sais pas quoi, sans être rémunéré, c'est-à-dire gratuitement. Et maintenant, le chauffeur, c'est un métier. Il faut que les gens comprennent la différence. C'est pas tout le monde qui est chauffeur. Et c'est pas tout le monde qui est conducteur. Mais un conducteur peut devenir chauffeur. Tout comme un chauffeur peut devenir un conducteur. C'est possible. Donc, le chauffeur, c'est quoi ? C'est un métier connu de tous. C'est-à-dire, tu es rémunéré après le travail. Là, tu es en position de chauffeur. Et c'est ça la différence entre un conducteur et un chauffeur.
Pour conclure sur cette question, on peut donc dire que tout chauffeur est avant tout un conducteur, mais tout conducteur n'est pas forcément un chauffeur.
Oui, un chauffeur doit d'abord être un conducteur, obligatoirement. Et après, il peut devenir chauffeur. Voilà donc la différence.
Alors, une fois que cette distinction est bien établie, je précise que l'émission de ce jeu porte exclusivement sur le conducteur. Quelles sont les qualités d'un bon conducteur?
Un bon conducteur doit d'abord être en santé. Il doit être physiquement là, en santé. Pas de soucis. C'est-à-dire, quand on parle de santé, c'est-à-dire, vous n'avez pas de soucis, pas de problème personnel, bon, ça revient aux soucis. Et donc, le mental doit être vraiment haut. Et un bon conducteur doit être toujours en mesure d'anticiper, de prévoir toujours un incident à l'avance. Être en mesure d'éviter tout genre de situation. Voilà donc les qualités d'un bon conducteur.
On va y revenir au long de cette émission, mais avant, on dit habituellement qu'un être humain a 5 sens. En principe, un être humain normalement constitué sans handicap a 5 sens. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût et la vue. Alors, on dit aussi que le seul sens qui n'est pas utilisé dans la conduite, c'est le goût. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les 4 autres sens interviennent dans la conduite?
Voilà, c'est une très bonne question. Il y a par exemple la vue, parce qu'il faut bien voir. Normalement, il y a un taux de vision qui est de 12 et que vous devez avoir au moins la moitié. C'est-à-dire, vos deux yeux doivent donner au moins 6. Si vous êtes à 6, c'est bon. Si par exemple, vous n'avez pas au moins 6, la moyenne, ça veut dire que vous ne serez pas capable de distinguer des choses, donc des détails. De préciser, de ne pas d'avoir des confusions à chaque fois. Et si vous avez une insuffisance de l'acuité visuelle, elle peut être corrigée par le port d'un lentille de contact ou d'un verre correcteur. Et là, s'il arrivait que vous avez ce problème et que vous avez passé votre permis avec cette situation, vous deviez vous filmer pour le permis avec des verres. C'est-à-dire que du moment que vous vous êtes filmé avec les verres, pour qu'on vous imprime même, vous devez mentionner cela sur votre certificat médical. Le médecin doit mentionner que celui-ci, là, on l'autorise à conduire seulement avec les verres. Et le ministère de Transport peut imprimer son permis avec les verres. Puisque généralement, on n'imprime pas un permis avec le verre, ni le foulard, ni le chapeau, ni le bonnet et tout. Donc, c'est comme on fait la CNI. Donc, c'est comme ça. Maintenant, il y a lui. C'est qu'un conducteur doit entendre. Un conducteur doit entendre ce qui se passe. Un bon conducteur doit entendre. C'est-à-dire, pourquoi entendre? Parce que souvent, on peut le klaxonner pour attirer son attention. Du coup, quand il n'entend pas, c'est un grand problème. Vous devez entendre dans les klaxons, les sons qui est à votre alentour, et du coup quand c'est quand vous n'entendez pas, c'est pour cela qu'on ne vous permet même pas de conduire. Il y a le toucher. Le toucher, c'est la peau. Le toucher ne fait pas partie, parce que c'est pas gênant. Parce qu'en conduite, vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose avec votre contact. Vous n'avez pas trop besoin de contact de la peau avec le véhicule qui peut causer un handicap. Et c'est pour cela que ça ne fait pas partie des conditions pour être un bon conducteur. Voilà. Il y a l'odorat, parce que tu dois sentir. Ça sert à quoi? C'est que en conduisant, il peut y avoir un court-circuit dans votre véhicule. Vous pouvez sentir ce court-circuit avec le nez. Et du coup, vous pouvez vous arrêter et voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a pété? C'est en sentant. Donc, quand vous sentez, par exemple, l'odeur d'un courant, parce que les véhicules, il y a des courants partout. y a la batterie qui fournit de l'électricité au véhicule, qui peut avoir un court-circuit. Donc, c'est important de sentir certaines choses. Sinon, le catastrophe peut arriver en ce moment. Voilà.
Alors, dans la formation à la conduite automobile, on dit qu'un bon conducteur doit d'abord maîtriser son véhicule. Qu'est-ce que cela veut dire, maîtriser son véhicule ?
Maîtriser son véhicule, ça veut dire quoi ? Dire, en français facile, connaître son véhicule. Connaître, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, vous devez connaître la force du moteur de votre véhicule. Vous devez être capable à connaître ce que votre véhicule ne peut pas faire. Et vous devez être aussi en mesure de s'arrêter quand il y a une situation devant vous. On dit souvent, il faut être le maître de la conduite. Le maître de la conduite, c'est être en mesure d'éviter toute chose à tout moment. Donc, connaître son véhicule même. Parce qu'on sait que souvent, quand vous êtes dans votre véhicule, vous saviez qu'il y a une montée et que votre véhicule là, ne peut pas monter. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez directement renoncer à monter. C'est un conducteur qui connaît son véhicule. Souvent, celui qui ne connaît pas, il va essayer et du coup, ça ne va pas monter et ça va lui demander une marche arrière forcée. Et ça peut causer des accidents graves de la circulation. Donc, il faut être maître de son véhicule.
Est-ce que, justement, la maîtrise du gabarit du véhicule rentre aussi dans ce cadre-là ?
Bien sûr. Vous devez être en mesure de connaître la taille de votre véhicule, du hauteur, en largeur et en longueur. Parce qu'il y a des endroits qu'on met des panneaux de signalisation, d'interdiction en hauteur limitée, ou bien en largeur ou en longueur. Donc, si vous ne connaissez pas du coup, vous allez être bloqué à un moment donné parce que vous ne maîtrisez pas la gabarit de votre véhicule. C'est très important de connaître la gabarit de son véhicule. Et pour connaître facilement la gabarit de votre véhicule, ou bien vous avez pris la voiture de quelqu'un qui n'est pas pour vous, la première des choses, il faut voir, sortir du véhicule et voir le véhicule en longueur et en largeur. Là, vous avez donc mémorisé déjà l'avant et l'arrière et le côté du véhicule. Et c'est maintenant facile pour vous de gérer tout genre de situation.
Alors, on dit également qu'un bon conducteur doit être vigilant. À quoi cela renvoie-t-il ?
La vigilance, ça renvoie à la capacité du conducteur. C'est-à-dire qu'il doit être en mesure d'éviter tout genre de situation qui peut survenir sur la route. Et il doit aussi être courtois en cas, par exemple, d'accident. Il ne faut pas être brutal. Un conducteur brutal cause d'abord des accidents graves et des situations qui peuvent aller au-delà de ce qu'on peut penser. Parce que la conduite ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment être, comme je disais tantôt, courtois, compréhensible et collaborer. Voilà.
Alors, un conducteur doit également communiquer avec les autres usagers de la route. Concrètement, quand, où et comment doit se faire cette communication ? Je pense qu'on fait l'allusion aux règles d'utilisation des klaxons, des jeux de phare, des phares même, des feux de détresse, tout ça.
Oui, un conducteur sans collaboration est d'abord un conducteur dangereux. La collaboration entre les conducteurs, c'est quoi ? C'est pas forcément qu'il faut parler à un autre conducteur, parce que souvent c'est difficile. Et c'est même difficile parce que généralement, le véhicule, on le conduit avec les vitres fermées. Donc, pour dire par là que vous n'allez pas entendre ce que l'autre peut te dire. Mais vous pouvez communiquer, par exemple, avec les feux. On peut se saluer juste avec les feux. On peut, par exemple, communiquer avec les feux comment ? En faisant des jeux de feu. C'est-à-dire, si par exemple, pendant la nuit, quand vous conduisez et que quelqu'un vous braque les pleins phares devant vous, vous pouvez le faire comprendre avec les feux, attirer son attention avec un appel lumineux. Et si le conducteur du côté opposé est aussi un bon conducteur, il saura ce que tu as envie de lui dire. On peut aussi communiquer avec le klaxon. Quand vous êtes avec votre véhicule et que vous allez au niveau d'une intersection en forme de plus et que vous n'avez pas la vision du côté de la débouchée du côté gauche ou du côté droite, il faut donc attirer l'attention en journée avec des klaxons. Et quand vous klaxonnez, ça ne veut pas dire que vous êtes prioritaire. Même si vous êtes prioritaire, vous devez ralentir. Vous devez ralentir même si vous êtes prioritaire.
parce que vous ne saviez pas avec quelle intention le juge a géré de côté de la voie de gauche ou de droite sont dans. Et la nuit, c'est avec les feux, toujours, le plan phare, le plan phare qu'on appelle généralement le feu de route, le côte phare qu'on appelle le feu de croisement. Donc vous allez faire les brefs appels avec le plan et le feu de route et le feu de croisement pour attirer donc l'attention de l'usager de la voie transversale.
Et pour les feux de détresse, comment communiquer avec et dans quelles circonstances les utiliser?
Les feux de détresse sont utilisés la majorité du temps en cas de panne. Par exemple, quand votre véhicule a par exemple une panne mécanique et que vous voulez la signaler. Et entre-temps, du coup, si vous êtes peut-être en train d'aller au garage, parce qu'il faut quand même amener au garage, vous devez mettre le feu de détresse. Le feu de détresse, ici, c'est ce qu'on appelle les 4 clignotants. Les 4 clignotants, ils vont donc appuyer, donc mettre le feu de détresse et pour attirer l'attention. Et un conducteur qui conduit avec le feu de détresse, prenez-le comme un conducteur apprenti. Il faut chercher à l'éviter, à le faciliter le passage. Parce que quand vous voyez un feu de détresse, il y a beaucoup de situations qui peuvent aller avec. En cas, par exemple, de port d'un malade, hein, c'est lui qui n'a pas de santé, vous voulez le conduire à l'hôpital, ou bien en cas d'accident, vous voulez amener quelqu'un à l'hôpital, vous mettez ici, cette voiture devient un véhicule prioritaire. Donc, avec les feux de détresse, vous devez considérer ce véhicule comme une ambulance, comme une voiture d'escorte. Donc vous deviez le faciliter, le passage. Et il y a encore, souvent je vois en route, quelqu'un qui a eu crevaison, qui ne prend pas des dispositions pour changer sa route. Normalement, l'usager doit d'abord mettre le triangle de pré-signalisation à 30 mètres en avant et en arrière du véhicule et mettre le feu de détresse avant de chercher à faire ses manœuvres. Là, c'est en journée. Pendant la nuit, ce qui ajoute avec les feux, le conducteur même doit avoir un gilet qui reflète pendant la nuit. Donc un gilet qu'il doit changer la roue parce qu'il peut être du côté conducteur et du côté de la circulation. Du coup, un autre conducteur qui n'a pas par exemple les phares peut venir le percuter en plein manœuvre. Donc on conseille toujours d'avoir ce gilet dans vos véhicules, c'est très important. Voilà donc certaines situations qu'on peut mettre les feux de détresse. Donc on ne met pas le feu de détresse pour rien. Je vois aussi souvent dans les mariages, l'escorte de mariage, les escortes funèbres, c'est à tort qu'ils font ça. Parce qu'il n'y a pas de difficulté dans ça. Il n'y a pas de difficulté à l'escorte d'un mariage. En ce moment-là, vous ne pouvez pas mettre les feux de détresse. Parce que quand vous mettez le feu de détresse, ça veut dire que vous demandez la priorité. Et pour demander la priorité, il faut être dans une situation critique, dans une situation grave. Donc, il n'y a pas de gravité dans l'escorte de mariage ni de l'escorte funèbre. Parce que, par exemple, l'escorte funèbre, la personne est décédée, il n'y a pas de pression. On n'est pas pressé, on ne doit même pas être pressé. On doit plutôt chercher à respecter les règles.
Alors, monsieur Sarwada, est-ce qu'il y a des attitudes et même des comportements qui sont incompatibles avec la conduite?
Oui, il y a des situations et des comportements incompatibles à la conduite. On prend l'exemple d'un conducteur qui a bu trop d'alcool. Un conducteur énervé. Il y a, par exemple, un conducteur soucieux qui ne peut pas aussi conduire. La fatigue. Ça reflète à la bonne santé parce que quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en santé. Donc voilà en quelque sorte les choses qui ne sont pas compatibles.
Alors parlons justement de la fatigue. Quels sont les risques liés à la fatigue dans la conduite?
Les risques sont nombreux. Les risques sont nombreux parce que vous aurez le risque d'endormissement au volant. Il y a la somnolence au volant, qui est aussi dangereux. Il y a les risques d'accident. Oui, la perte de vigilance. Parce qu'un conducteur fatigué ne voit pas loin. Il a une vision limitée. Et il aurait aussi des difficultés à interpréter. Il aura une lenteur dans ses manœuvres, dans les la lenteur, dans les manœuvres, etc. Il y a beaucoup qui va avec.
On peut donc bien imaginer qu'un automobiliste qui parcourt une longue distance puisse être fatigué, même s'il a pris la route étant en très bonne santé, étant très bien reposé. On peut imaginer qu'au bout d'un certain temps, un certain nombre de kilomètres parcourus, qu'il puisse être fatigué. Est-ce qu'il y a des astuces particulières pour gérer la fatigue lorsqu'on est appelé à parcourir de très longues distances?
Bien sûr, il y a des règles pour cela. Un conducteur qui roule pendant 2 heures de temps, de moto ou bien de voiture, qui roule pendant 2 heures de temps, sans arrêt, est obligé de s'arrêter, de prendre une pause de 15 à 20 minutes. Ça, c'est obligatoire. Une pause de 15, même si vous n'êtes pas fatigué. Quand vous avez roulé 2 heures de temps, vous devez marquer un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt vous sert à quoi? À récupérer. Le temps d'arrêt de 15 à 20 minutes vous sert à récupérer la moitié d'énergie que vous avez fournie durant votre trajet. D'un, et de deux, ça permet au véhicule de se reposer. Parce que le véhicule aussi veut se reposer. De trois, comme conseil, quand vous vous arrêtez, cherchez à faire des étirements, à marcher et rester hors du véhicule. Vous pouvez aussi, entre-temps, prendre un repas léger ou bien un sieste de 20 minutes. C'est important pour que vous puissiez donc récupérer la moitié d'énergie que vous avez fournie durant votre trajet. Et je voulais attirer l'attention des usagers, des usagers de la circulation ou bien des passagers dans les agences, par exemple. Les agences de voyage, il y a des droits que les passagers ont et qu'ils ne savent. Par exemple, un conducteur, quand vous sortez par exemple à 7 heures, vous avez pris votre départ à 7 heures. Du coup, vous voyez qu'il est 9 heures, ça fait 2 heures. Vous aviez l'autorisation d'interpeller le chauffeur pour lui dire que monsieur, on est quitté à 7 heures, maintenant on est à 9 heures. Vous devez marquer un temps d'arrêt. C'est quoi ça? C'est que vous êtes en train de contribuer à une situation qui peut arriver au pire des choses. Et s'il ne s'arrête pas, je vous conseille de déclarer cela au prochain contrôle. Vous dites que vous avez quitté à telle heure, on a fait 2 heures de trajet sans arrêt. Mais il était censé s'arrêter chaque 2 heures. Et si vous déclarez cela, on peut immédiatement interpeller le chauffeur, soit même appeler l'agence pour qu'on change un autre chauffeur. Ça, c'est sur vos droits. Donc, il ne faut pas accepter des trajets. Souvent, c'est vrai que c'est ces passagers-là qui disent qu'ils sont pressés. Qu'ils sont ceci. Mais en cas d'accident, même si vous êtes pressé, vous allez vous arrêter. Donc, c'est mieux d'éviter d'être pressé et d'être dans les normes.
Parlons maintenant des dangers de l'alcool et même des drogues. Quels sont-ils? Quels sont les dangers de l'alcool et des drogues sur la conduite?
Les drogues, l'alcool ont des mêmes conséquences. À dire, donc, ce qui va se passer avec l'usager qui a consommé de l'alcool ou bien de la drogue, les stupéfiants, vous allez voir, ils se comportent presque de la même façon. Vous allez avoir un problème de manipulation d'abord des commandes. Il y a la lenteur sur les commandes, il y a la perte de vision, il y a l'allongement du temps de réaction ou le temps d'arrêt qui va impacter sur sa situation. Et souvent, c'est des personnes souvent qui parlent beaucoup. Et en conduite, il faut beaucoup de limites. On ne doit pas parler beaucoup, parler n'importe comment dans certaines situations.
Est-ce que justement ces substances-là, l'alcool, les drogues, ne poussent pas les conducteurs à prendre des risques démesurés, parfois même à ne même pas respecter la signalisation, notamment des limitations de vitesse et consorts?
Effectivement, c'est pour cela qu'on dit c'est dangereux. Parce qu'il réfléchit tardivement, sa réflexion devient tardive et il suffit seulement d'une seconde en conduite pour faire une différence. Quand votre temps de réaction ou d'arrêt est allongé, du coup, ça vous cause une situation souvent à ne même pas parler, des situations graves. Et quand vous voyez souvent des accidents mortels, et s'il faut approfondir les enquêtes, vous allez vous rendre compte que le conducteur est dans une situation peut-être qui a pris des comprimés, des substances qui ont changé, parce que ça change la mentalité, ça donne un courage démesuré, comme vous avez dit. Hein. Vous ne voyez pas les risques, vous sous-estimez toujours les risques. Oui, j'entends souvent, il y a certains conducteurs qui disent que s'ils boivent, là, c'est en ce moment-là qu'ils voient bien. C'est faux. Ça veut dire que si, étant sous, il conduit quand même, ça veut dire que s'il était conscient, il n'a pas bu, ça veut dire que c'est un très bon conducteur. C'est un exemple de la circulation. Et l'alcool, comme les stupéfiants, change facilement la mentalité, donne, comme on dit souvent au quartier, le faux courage. Voilà, donc ça ne te pousse pas à réfléchir. Hein. Vous minimisez les risques. Vous sous-estimez presque tous les usagers. Vous voyez, vous êtes à la hauteur de tout le monde. Et c'est difficile de vous contrôler et de te contrôler. Voilà.
Dans le même ordre d'idées, est-ce qu'il n'y a pas des médicaments qu'on peut prendre peut-être pour soigner une maladie et qui sont déconseillés lorsqu'on conduit? Si oui, comment reconnaître ces médicaments-là et les éviter lorsqu'on est appelé à prendre la route, à prendre le volant?
Oui, c'est vrai, tout médicament saoule. Il suffit seulement, je vais vous donner un exemple d'un médicament que tout le monde sous-estime, ce médicament, le paracétamol juste. Le médecin vous dit de prendre deux paracétamol le matin, deux le soir. Du coup, l'usager, il dit qu'il chauffe trop, les deux ne peuvent pas calmer. Lui-même, il s'est dit qu'il chauffe trop et deux ne peuvent pas calmer. Il dit qu'il prend cinq. Et maintenant, c'est la surdose. Du coup, il aura des choses qui vont se passer dans son organisme. Il va commencer à avoir d'abord les soucis. Les soucis-là vont venir comment? Il va d'abord dire que sa maladie d'abord s'est aggravée et quand un conducteur a déjà cette idée dans la tête que sa situation a aggravé, il devient soucieux. Vous voyez, en quelque sorte, des choses qu'on minimise ici, mais ça peut faire de grands dégâts. Les produits, par exemple, les anti-inflammatoires, par exemple. Il y a, par exemple, les ibuprofènes qu'on connaît, les diclofenac qu'on connaît. À l'excès, saoule. Il y a souvent certains médicaments qui servent à calmer la douleur, qui est prescrit souvent sur une ordonnance à calmer la douleur de quelqu'un, d'un usager ou bien, par exemple. Mais du coup, l'excès de cela, les gens prennent pour plutôt faire une autre chose, pour se saouler. À l'excès de ça, ça saoule. Et quand ça saoule, ce n'est plus bien de conduire. Donc, c'est à peu près ça.
Alors, sur le plan psychologique aussi, on sait que lorsque quelqu'un n'est pas dans de bonnes dispositions, il peut être amené justement à être un mauvais conducteur. Est-ce que sur le plan psychologique, il y a des dispositions qu'un conducteur doit avoir pour limiter les risques d'accident?
Oui, pour limiter les risques d'accident, il y a des dispositions. Il y a beaucoup de dispositions, même parce qu'il faut se connaître. Lui-même, se connaître, ça veut dire quoi? Tu connais que à l'état que vous êtes là, ça ne va pas. Mais avec tout ça, vous dites vous voulez conduire. C'est déjà une situation qui peut causer beaucoup d'accidents. L'état physique d'un conducteur est important. Il faut se sentir vraiment physiquement apte à faire tel ou tel. Il n'est pas conseillé de prendre le guidon ou bien le volant d'un véhicule avec des situations de soucis. Les usagers sous-estiment le souci parce que la vision d'un conducteur, le plus souvent, est là ce qu'il est en train de penser. Vous êtes peut-être sorti et vous avez une situation qui vous a dérangé à la maison. Et quand vous sortez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez penser à comment résoudre ou bien aggraver la situation que vous aviez. Et quand vous êtes en train de penser à ça, vous ne voyez plus. Vous ne serez plus concentré. Et un conducteur qui n'est pas concentré égale à un accident.
Alors, tout à l'heure, vous avez déjà expliqué, esquissé quelques éléments de réponse à la question que je m'avais vous posée. Comment doit se comporter un conducteur en cas de panne qui l'oblige à immobiliser son engin sur la route? Quelles sont les précautions qu'il doit prendre?
Un conducteur qui a une panne mécanique ou électrique doit bien garer son véhicule à droite de la chaussée. Très bien garer. Et baliser les lieux. Baliser les lieux, ça veut dire que mettre les balises de pré-signalisation triangulaire. Limiter l'endroit en déposant un triangle de pré-signalisation à l'arrière de votre véhicule à 30 mètres et vous allez mettre l'autre devant votre véhicule à 30 mètres. Si c'est une panne légère, que vous pouvez aller d'un moment à l'autre, tout de même, vous devez quand même signaler cela à l'aide des feux de détresse. C'est très important. Et il faut être calme. Un conducteur doit être calme, doit être courtois.
Et justement, si cet automobiliste n'a pas de triangle de signalisation, comment est-ce qu'il peut faire pour matérialiser la présence de son véhicule?
Oui, on peut matérialiser son véhicule à l'aide des feuilles, des arbres que vous devez mettre à 30 mètres de votre véhicule, à l'avant comme à l'arrière. Vous pouvez donc sécuriser avec les feuilles d'arbres à défaut de triangles de pré-signalisation. C'est très important. Et sans oublier toujours le feu de détresse à l'appui.
Alors, monsieur Emmanuel Sawada, je précise pour nos auditeurs que vous êtes un expert en sécurité routière, en sécurité automobile. Dites-nous, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à ces auditeurs-là, justement, pour les aider à être de meilleurs conducteurs? En français d'abord, puis en foufouldé.
Oui, j'ai des conseils à prodiguer à ces conducteurs. J'avais dit une fois dans cette émission que un bon conducteur doit être vigilant, doit être prêt, doit être à mesure d'éviter, d'anticiper certaines situations. Et un bon conducteur doit aussi être en état de santé normal et mettre dans sa tête qu'il connaît conduire plus que tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait attention à tout le monde. Dire que vous connaissez conduire plus que tout le monde, c'est prendre des dispositions. En cas d'une situation, par exemple à une intersection, en cas de la priorité de passage, il faut toujours penser que toi tu connais conduire et que tu as devant toi et des usagers de la voie transversale sont des apprentis. Donc être toujours vigilant, être attentif. Voilà donc quelques conseils. Et puis, aller se former dans de bonnes auto-écoles. Les auto-écoles qui peuvent vous fournir toutes ces informations. Dit d'abord, émission, je suis en train de faire la vie. Je suis en train de faire la vie. Je suis en train de faire la vie. Dum goddo on je don jodi ha der mota ha côté chauffeur o lon bo mari dungayere be wiata autorisation dum permis de conduire donc amara permis de conduire on hedde ko kocha volant malli gidon moto yo min bolwi bo dume on sendidri chauffeur be conducteur chauffeur do dum pougal yo conducteur do kayum kam dum goddo je don laaya mota en yobata dum masalan bana mota mada ado laaya do na a chauffeur maga ando be non nodda ma conducteur na a chauffeur masalan a hoi mota goddo hanja ha haje ma malli o nulma wala hala khala sunku nasti hato je to atimmini o yobe do fu na a chauffeur ko a hoi chauffeur on chauffeur goddo non a andi kugal ma ko chauffeur ko a nulimo dum goddo mada do pat dum na dum wondoro dum na chauffeur. Et nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons maîtrisé son véhicule. Nous avons vu que nous avons vu un conducteur qui maîtrise son véhicule. Nous avons vu que 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 don huwa to yaabi ha do dede ha to do daroto o andi boyo sembe mota mako malli mota mako do wa an par exemple hosere to de don ngawawan waugo a andi yo mota mada do wawan a andi do mota mada do wawata do pat dum wi go yo a andi jamdi mada yo risque don par exemple goddo chomdo goddo to do somi il faut que wato o suita ta wi ayo ya ha moda lekki chomri hakebani lekki chomri do dum siwtaru yo to on don laaya yake fere ko on jewa jahon jahangal do to a wadi lerdidi a daraki pat yidino boddum man do ha lerdidi fu dara minti sappo e joyi mallino gas malli keba bala keba bal fere keba recupera dewdi ko minti no gas wadan yo keptita chomri mada don du chomri keptita hore mada dede wa to continue ya dumada en poti jummen par exemple min don jaha garwa malli a ngawndere en andi do kam lere buri lere nayi buri lere joyi yake fera do laaya do man do si adon mandi kadi wakati do semi daro yo to adara ke bo yidi a to a nyaman hunde nyama kuje kuje leje kuje teddai kuje peton peton to porta banduma gada bana etireman be yata o poda ban poda banduma boddu si ciutoda o kam na der mota ni yasi mu ngurta de mota mara bawo don kocha mota ma continue bo yasmo yo mi don no wiya bon ni to goddo hebi problem be moto mako malli be mota mako bana wonni hala awol ni o wadata goddo man do ha der motaji do ngara be triangle ji be don joina ha de labi do singa da triangle do joina konta pat chapantati ha yeso mota mara be bawo mota joina ha signala adon be pan wara bidda bouton de client tang naido ngara to awadi banni si ngada kadi to a moinan to a yownan goddo andio motama doddo en sécurité an bo ado en sécurité yake feren andi en gala triangle man kayum bo foti ngewen ha ko gagnien ha ko ledde a bord a itta atala halisti man ton mais a mesure ba jemi wido chap meter chapantati a yeso meter chapantati a bawo ngam ta besdane situation goddo fere do foti yotto banni hakli nay wara fio faindo motama adama do on kadi ko larani par exemple pan to hebi yo layo mota malli moto bo sim juina hore mako do luttube pat anda mota si an man ferema si an man ferema on andi ne yidi wigo dum yo dume dum nafata ko sa ko moy fu ba do ekkita ha to a ha der ton man do to awi goddo do ekkita kam na hakkilinan mo an kam goddo man yidi hakkilinay man ma hakkilinin ko moy ta holu ko moy to adon ya yo wado on kadi conseil je min foti min wi on ado o hala labi do goddo ko goddo layata yo wa c'est comme un jour yetti on.
Monsieur Emmanuel Savaldar, merci pour ce résumé de tout ce que vous avez prodigué justement comme conseil au long de cette émission. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi.
Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs, c'est ici que nous refermons cette autre production de votre émission Usagers de la route, dans laquelle nous avons parlé du conducteur avec un expert en prévention et sécurité routière, Monsieur Emmanuel Sawalda, promoteur de l'auto-école Le Septentrion de Marois, à qui nous disons une fois de plus merci pour sa contribution. Comme leçon à retenir, la conduite est réservée aux personnes ayant des aptitudes sanctionnées par la détention d'un permis de conduire. Un bon conducteur doit être prudent et vigilant, de façon à être toujours en mesure d'anticiper et d'éviter tout type de situation qui pourrait survenir. Un bon conducteur doit aussi maîtriser son véhicule afin d'être maître de sa conduite. Un bon conducteur, c'est aussi celui qui communique avec les autres usagers en utilisant convenablement le klaxon, les clignotants, les feux de détresse et les appels lumineux pour limiter les risques d'incidents. La fatigue est un véritable danger pour la conduite car elle amène le conducteur à prendre des risques. Il faut donc, lorsqu'on est appelé à parcourir de longues distances, s'organiser de façon à prendre une courte pause toutes les deux heures. Enfin, il faut savoir que la conduite est incompatible avec la consommation d'alcool, des drogues et même de certains médicaments. Le conducteur doit être capable de définir si son état physique et psychologique l'autorise à conduire. On ne le dira jamais assez, boire ou conduire, il faut choisir. Le code de la route est véritablement une affaire de tous, automobilistes comme piétons, et nous devons toujours le respecter afin d'éviter d'occasionner ou d'être victime d'accidents dont les conséquences sont parfois tragiques. La production de cette émission a été assurée par Maxino à la technique, Nicole Massai à la réalisation et David Bayan à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour aborder un autre thème sur la sécurité routière. D'ici là, restez prudents sur la route.